Bon, merci d'être là. Particulièrement à Amélie qui m'a déjà entendue pendant 3 heures de cours cet après-midi. Bravo pour votre tempérance. Donc, je voudrais remercier les Salon Double de m'avoir invitée à donner une conférence, et singulièrement à la donner ici à la Mer à Boire, qui est pour moi un lieu symbolique. J'y suis venue pour la première fois le 23 mai 2012. À l'occasion d'un cycle de conférences intitulé « Mots et images de la résistance », dont j'ai suivi de nombreux épisodes et qui ont fait beaucoup pour ma découverte et ma compréhension de mon environnement proche, c'est-à-dire le Québec. Le 23 mai 2012, donc, parce que le sujet de la conférence m'autorise à vous raconter ma vie un tout petit peu, je suis sortie de l'Antigone de Wajdi Mouawad, qui ne faisait étrangement pas du tout référence à la désobéissance civile qui avait lieu dans la rue, devant le théâtre. Et je suis venue ici avec une amie boire un dernier verre avec les conférenciers du jour. Et nous y sommes restés jusqu'à 3h30 du matin, car il était impossible de sortir de cette rue qui était bloquée à Ontario et à Sherbrooke. Et donc j'ai pu assister depuis la terrasse à des avancées de reculades de casseroles et de policiers, ce qui était extrêmement impressionnant pour la nouvelle immigrée non couverte par la résidence permanente que j'étais et que je suis toujours. Et donc je me suis à un moment donné enfermée au deuxième étage de ce lieu parce qu'on nous a invités à entrer, parce que peut-être que la police allait entrer et qu'il y avait eu beaucoup de gaz dans l'air ces derniers temps. Donc, je me souviens de cette nuit-là avec beaucoup d'émotions, et quand nous sommes sortis à 3h30, finalement, nous nous sommes rendus compte qu'au carrefour Sherbrooke, Saint-Denis, il y avait une arrestation massive de 500 personnes. Voilà, le jour où j'écrirai quelque chose sur le Québec, si un jour ça m'arrive, je parlerai de cette nuit-là. La différence, la distinction sur laquelle je voudrais me pencher ce soir, c'est celle-là. Est-ce que cette nuit-là, je l'ai vécue et donc je vais un jour la raconter parce que je l'ai vécue, ou bien est-ce que, en sortant de chez moi ce soir-là, après avoir passé un mois enfermé dans ma tour au 18e étage à regarder CUTV Montréal, est-ce que je me suis dit il faut que je vive quelque chose hors de cette réclusion pour pouvoir un jour le raconter, parce que déjà mon père avait été malade en mai 68, donc je ne pouvais pas me permettre de manquer ça. Si je pars du principe qu'on vit les choses pour les raconter, le danger c'est d'être taxé de cynisme, et cette différence, cette distinction épistémologique, c'est celle entre l'autobiographie et la performance. Donc évidemment, je me suis pas dit il faut que je sorte de chez moi pour avoir quelque chose à raconter, mais de manière inconsciente, il est évident que à chaque fois que je suis amenée à faire un choix de cet ordre, je sais que j'ai un carnet dans la poche et que je vais à un moment donné prendre des notes. Et je pense que c'est le cas d'absolument tous les gens qui écrivent et qui écrivent depuis longtemps. Donc je travaille sur l'autobiographie et l'autofiction, mais de manière plus large, j'essaye de ne pas considérer ces genres comme spécifiques, mais comme appartenant à un ensemble plus vaste, qui est celui des écritures référentielles, ou écritures du réel, et qui m'intéresse à la fois du point de vue de la création et sous l'angle de leur réception, puisque je considère la création comme un effort constant pour essayer d'envisager ce que serait la réception de ce qu'on écrit, entre autres. Donc j'étudie les modalités d'inscription du réel et ses modalités de décryptage, de reconnaissance, ce qu'on appelle l'ancrage, qui est, au-delà d'une référence, un code en commun qu'on a avec le lecteur. Donc je vais revenir sur ce que c'est pour moi que l'écriture performance, qui est un principe que je dois à Stanislavski. Donc je travaille depuis 2005 sur ce principe de l'écriture-performance qui va de la Madeleine de Proust au jeu de l'acteur théorisé par Stanislavski et ensuite par l'acteur studio. Et qui convoque non pas le vécu, mais l'éprouvé de l'auteur et du personnage narrateur, Ce qui fait toute la différence, c'est que le temps ne raconte pas ce qu'il vit ou ce qu'il a vécu, mais projette des émotions qu'il a éprouvées sur des situations inédites, inventées, et sur des personnages de fiction. L'écrivain, donc, est ici un acteur. C'est un travail de jeu, de performance, qui produit à travers l'écriture et au moment de l'écriture. La gageure, c'est que cette performance va être d'autant plus convaincante, sera d'autant plus capable de toucher le public qu'elle est sincère. Et la sincérité n'est jamais mesurable. C'est un acte de foi que de jouer, de tenter de faire affleurer à la surface de la conscience, au moment où on écrit, ce qui fut jadis un sentiment, une émotion réelle. Alors pour faire ça, Stanislavski propose de passer par la sensation. Et c'est par cette même sensation que Proust va retrouver le temps perdu. Hein, c'est le goût de la Madeleine qui charrie la réminiscence. Donc chaque affect mémorisé peut donc être réanimé par une sensation qui lui coexiste. Le goût de la bière, l'odeur de la cigarette, une lumière, une matière. Donc si Stanislavski a théorisé ce principe-là pour le jeu de l'acteur, il me semble que les écrivains le reproduisent la plupart du temps de manière inconsciente, mais qu'il s'agit d'une démarche relativement commune. J'essaie aussi de retrouver l'émotion que j'éprouvais, par exemple, la première fois que je suis arrivée à Montréal. Je pense à des choses précises, à des anecdotes, à des sensations. Je pense par exemple à la première fois que j'étais dans l'aéroport de Montréal avec deux valises de 23 kilos qui m'ont échappé sur le tapis roulant et à cette espèce de glissade que j'ai tenté de faire pour les rattraper. Ça va me c'est la sensation qui va refaire surgir l'émotion du moment. Je pense à une cigarette fumée dans un aquarium pour humains à l'aéroport de Munich où il y avait toute cette inconnu qui allait débarquer de voilà. Donc l'image mentale du souvenir vient avec la sensation. Évidemment, c'est un effort qu'on fait sur soi-même. C'est quelque chose qui est de l'ordre de la douce torture qu'on s'inflige pour écrire. Et c'est pas quelque chose qui est de l'ordre du plaisir, c'est pas quelque chose qui est de l'ordre de l'analyse. Souvent, c'est des choses auxquelles on a déjà donné du sens. C'est quelque chose qui est de l'ordre de la performance, qu'on va produire en soi pour essayer d'écrire quelque chose. Et donc, je m'inflige cette réminiscence continue. La réminiscence, c'est donc le matériel de l'autobiographique. Mais c'est aussi le matériel anticipé de la performance. Il y a une chanson de Piaf qui dit « Laissez-moi le temps de fabriquer des souvenirs ». Donc, quand on est sur le point de vivre quelque chose, on a aussi cette conscience qu'on se fabrique des souvenirs. Je me souviens, par exemple, d'une lettre que m'avait envoyée Françoise Verny quand j'avais 17 ans. Françoise Verny, c'était une éditrice qui était à l'époque chez Grasset, qui était chez Flammarion avant, qui était une dame qu'on était obligé de respecter, quoi. Et qui m'a envoyé une lettre qui était très généreuse, qui me disait « Vivez, voyagez, allez au concert, rencontrez l'altérité ». En gros, ce qu'elle me disait, c'était « Forgez-vous une expérience de vie, devenez quelqu'un qui a des choses à dire ». Qui peut être utile à 17 ans. Mais pas forcément des choses à raconter. C'est là où il n'y a pas de cynisme dans cette démarche-là. C'est que c'est quelque chose qui est finalement de l'ordre de l'universel. Le matériel biographique, c'est votre palette. Hein, c'est la palette dans laquelle vous allez puiser. À 18 ans, quand j'ai publié mon premier roman, l'éditeur m'a demandé une notice biographique. Je l'ai écrite au futur parce que j'avais honte de n'avoir absolument rien à dire. Donc j'ai écrit sur, j'aurai 30 ans en 2009 et d'ici là j'aurais fait, voilà, c'est déjà du passé. Donc ce qui est bien, 10 ans après, on peut vérifier ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait. Donc il y a quelque chose, et c'est là-dessus que je vais essayer de développer ma réflexion ce soir, c'est sur l'attaque morale. Il n'y a rien de moralement condamnable à vouloir vivre des choses pour avoir des choses à dire. du matériel. Comme un acteur qui aurait jamais été triste, jamais été en colère, il serait difficile de jouer pour lui ces sentiments-là. Quelqu'un qui serait resté enfermé chez lui 24 heures sur 24. Stanislavski parle de mémoire affective et considère le matériel émotif et sensitif de l'acteur comme une palette de couleurs qu'il peut convoquer et combiner. Donc l'écrivain, à mon sens, fait la même chose, inconsciemment ou non, dès qu'il met en scène des personnages auxquels il prête des affects. Ce sont ses propres affects. On ne peut pas prêter à des personnages des émotions qu'on n'a jamais eues. Alors, c'est en lisant, il y a un an, une tribune de Christine Angot dans Le Monde à propos de Marcela Yacoub que j'ai commencé à considérer cette distinction qui est présentée initialement comme étant d'ordre éthique. Marcela Yacoub, si jamais vous ne la connaissez pas, de part, c'est une historienne du droit. C'est une intellectuelle plutôt brillante, plutôt provocatrice, et qui a pris une position très à contre-courant, notamment dans l'affaire DSK, en plaidant pour la présomption d'innocence et la notion de vie privée. Il y a un an, elle a publié un roman, celui-ci, Belle et Bête, que je ne suis pas arrivée à lire, parce qu'il me tombe des mains, mais qui existe. Jusque-là, elle s'était toujours cantonnée à l'essai. Et dans ce roman, elle raconte une brève histoire d'amour qu'elle a eue avec Dominique Strauss-Kahn. Juste après le scandale du Hilton. Donc, à un moment où on ne peut plus ignorer qui est Dominique Strauss-Kahn sur le plan moral. Et donc, elle raconte dans ce livre comment l'a rencontré, celui qu'elle appelle le porc ou le cochon. Évidemment, le contexte ultra sulfureux qui entoure cette histoire, le livre, la sortie du livre, le lynchage médiatique absolu qui l'a accueilli, tout ça a évidemment pris le pas sur la dimension littéraire de la chose. Et la question n'a jamais été de savoir si le livre était digne d'intérêt. La seule question était de savoir si ce livre était légitime, si son auteur était sincère. En gros, si elle avait vécu cette histoire pour pouvoir la raconter, sous-entendu cyniquement, et je parle sur un plan commercial, hein, médiatique et commercial, ou si elle l'avait raconté parce qu'elle l'avait vécu, ce qui la rendrait plus légitime. Je précise que Marcela Yacoub a dit que, juste avant de rencontrer la bête, elle était sur le point de se suicider, elle était dans une dépression terrible, etc. Et je précise aussi que toutes les scènes sexuelles ont été remplacées par des scènes oniriques fantastiques qui sont censées sauver l'histoire du sordide. Le maximum de sensualité étant un moment où le personnage masculin lèche les cils du personnage narrateur. Donc, ce qui me semble à moi d'un intérêt supérieur, et c'est pour ça que j'ai décidé de parler de ça, c'est de savoir quel statut on donne à une littérature qui se dit expérimentale ou encore performative, si on peut la distinguer de la littérature autobiographique, dans son principe, dans sa fonction et dans sa nature. Alors, la tribune de Christine Angot, j'ai imprimé mais en tout petit, donc, qui s'intitule « Non, non, non et non », récuse la ressemblance entre son propre travail, qui depuis plusieurs années est estampillé autofiction, et celui de Marcela Yacoub, que Philippe Lançon, journaliste à Libération, qualifie d'expérimental. Et Christine Angot va reprendre à son compte le terme d'expérimental. Dans un premier temps, j'ai trouvé que la distinction était assez efficace, c'est-à-dire raconter sa vie versus vivre des choses pour les raconter. Mais c'est une distinction morale. Elle le revendique d'ailleurs, il y a un sous-titre dans la chronique qui dit « Oui, je suis moralisatrice, oui, je fais une psychanalyse. » Et il y a quelque chose de l'éthos de l'auteur qui est en jeu dans cette tribune. C'est-à-dire que quelques mois plus tôt, Christine Angot a publié un livre qui s'appelle « Une semaine de vacances » où elle raconte l'inceste qu'elle a subi donc de manière extrêmement détaillée, de manière extrêmement morbide aussi. Et ce livre-là a été salué par la critique, mais on a pu aussi lui reprocher son côté voyeur. notamment parce qu'il met le lecteur dans une position extrêmement difficile à tenir, puisqu'on raconte un viol d'une jeune fille par son père en détail. Bref, si Ongo refuse d'être associé à Yacoub sur le fond, sur le principe de l'écriture, c'est encore une fois pour des raisons de morale et d'éthos, pour être reconnu, une fois de plus, comme victime. Alors, la dimension morale, moi, je voudrais aller au-delà, parce que je pense que la question de la morale, elle est très limitée quand on parle de littérature, et que il me semble qu'elle est tout le temps traitée par les gens qui parlent d'autofiction, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal à aller au-delà de la question de la morale quand on parle d'autobiographie et d'autofiction. La piste la plus intéressante qui a été menée, à mon sens, ces dernières années, c'est Mathieu Simonet qui l'a ouverte. Mathieu Simonet, c'est un auteur qui publie aux éditions du Seuil, qui a écrit Les Carnets Blancs, qui a écrit La Maternité, qui est aussi avocat. Et Mathieu Simonet, il négocie avec ses personnages. C'est-à-dire qu'il négocie en amont de l'écriture et il négocie en amont de la publication. Ce qui fait que ça donne au départ des romans où chaque inspirateur a eu son mot à dire, chaque inspirateur a validé l'écriture. Oui, mais tout le monde ne peut pas le faire, hein, j'y reviendrai. Mais, et si on pousse ça jusqu'à son paroxysme, dans sa logique, ça donne une autobiographie collective. Et c'est ce que Mathieu Simonet entreprend aussi, c'est de faire écrire les autres, de faire écrire des gens, et de construire une autobiographie collective avec ces carnets-là qu'il distribue. En ce moment, il fait une résidence dans un hôpital parisien. Donc, on a quelque chose de l'ordre de... la question de la légitimité de l'écrivain ne se pose plus. Tout le monde a le droit d'écrire, tout le monde a le droit d'avoir sa version. Il n'y a pas une version qui est plus légitime qu'une autre. Il n'y a pas une version qui a plus de valeur qu'une autre. Ce qui impose d'évacuer la dimension esthétique, ce qui pose un autre genre de problème. Et puis alors, en essayant de moi-même de me demander si je pouvais négocier avec mes personnages, je me heurte à une nature de l'écriture. C'est-à-dire que il y a des gens qui ont une écriture très factuelle, et c'est le cas de Mathieu par exemple, qui va raconter les choses, qui va dire les choses, et du coup chacun peut s'y retrouver. Si vous avez une écriture un tant soit peu ironique, c'est foutu. Vous ne pouvez plus du tout négocier avec vos personnages, puisque tous les personnages qui vont être dans le livre vont être passés au crible de votre conscience, de votre mauvaise foi, etc. Donc, on va passer son temps à se censurer dans l'écriture en prévision de la négociation. On ne peut négocier que... quand ce qu'on dit est présentable à la table des négociations, finalement. Donc il y a quelque chose de l'autocensure dans l'autofiction elle-même. En gros, ce que je pense, c'est qu'on ne transpose bien souvent que pour épargner les autres ou s'épargner des problèmes relationnels. Un autobiographe ne raconte pas sa vie, il raconte aussi la vie des autres, les autres autour de lui. Donc, poser le principe de l'expérience versus l'autobiographie permet de mettre ça à jour en amont. C'est une autre forme de négociation, finalement. Par exemple, cas numéro 1, je vais choisir des autres pour vivre cette histoire avec moi que je pourrais trahir à volonté, des autres dont je me fiche éperdument a priori. Cas numéro 2, prévenir les autres. Je vous préviens, tout ce que vous direz ou ferez pourrait être retenu contre vous et je pourrais m'en servir dans mon livre. Donc pour dépasser le cas Ango Yacoub, qui de toute façon se place définitivement sur le plan de la morale, il me semble que ce qu'on trouve de plus proche dans la démarche elle-même, c'est la pratique que fait Sophie Kahl de l'écriture. Et Sophie Kahl, parce qu'elle ne se place pas dans le champ de la littérature a priori, se permet de vivre des choses pour pouvoir les raconter depuis des années. Et on peut penser par exemple à Douleur exquise, qui est une rupture confrontée à la douleur éprouvée par autrui, c'est-à-dire en gros, elle se fait larguer et elle demande aux gens qu'elle rencontre de raconter ce qu'ils ont eu à subir comme douleur la plus terrible dans leur vie. Et c'est une espèce d'entreprise de résilience horizontale, finalement, qui va passer par la confrontation au malheur des autres. Finalement, relativiser sa propre souffrance en demandant aux autres de raconter. Ensuite, il y a une œuvre qui s'appelle « Prenez soin de vous », qui date de 2007. Alors, je vous lis comment elle la présente elle-même. « J'ai reçu un mail de rupture. Je n'ai pas su répondre. » C'était comme s'il ne m'était pas destiné. Il s'est terminé par les mots « Prenez soin de vous ». J'ai pris cette recommandation au pied de la lettre. J'ai demandé à 107 femmes choisies pour leur métier d'interpréter la lettre sous un angle professionnel. L'analyser, la commenter, la jouer, la danser, la chanter. La disséquer, l'épuiser. Comprendre pour moi. Répondre à ma place. Une façon de prendre le temps de rompre à mon rythme. Prendre soin de moi. Donc il y a quelque chose là de l'utilisation d'un élément de la vie dans l'œuvre qui est totalement conscient, qui est totalement théorisé, qui est assumé comme tel. Il n'y a pas l'idée de la trahison, l'idée du cynisme n'est jamais posée par Sophie Calle, et finalement on le lui reproche beaucoup moins qu'à tous les écrivains d'autofiction ou d'autobiographie. Un cas à mon avis encore plus intéressant dans ce champ là c'est le film No Sex Last Night que Sophie Calle réalise avec Greg Shepard en 92. Elle l'emmène à Las Vegas, c'est-à-dire qu'ils sont ensemble depuis un an, leur relation bat de l'aile. Elle sent qu'il va la quitter, et pour le retenir, dit-elle, elle va lui proposer de traverser les États-Unis ensemble en voiture avec chacun une caméra et de se marier en arrivant à Las Vegas. C'est un film magnifique. On peut se demander dans quelle mesure Greg Shepard accepte pour être un jour le co-auteur de Sophie Calle. Il passera à la postérité uniquement pour ça, probablement. Mais donc il y a là aussi le soupçon moral qui peut peser sur une œuvre telle que celle-là. Cela dit, la réalité de la motivation de l'un et de l'autre, on ne la connaîtra jamais. Là encore, c'est de l'ordre de l'acte de foi. Est-ce qu'il y a finalement quelque chose de mal à vouloir transformer un échec personnel en œuvre d'art, ou est-ce que c'est finalement complètement légitime ou la moindre des choses? Donc l'histoire est à la fois le moteur de l'œuvre, mais aussi son prétexte à faire une œuvre. Poser cette question de la motivation, c'est encore poser la question de l'usage qu'on fait des autres à l'intérieur d'une œuvre autobiographique, et qui est une question extra-littéraire, extra-esthétique. Ce qui se pose toujours, c'est la question d'une motivation qui est indécidable. Finalement, est-ce qu'il y a une vérité de la motivation ? Est-ce que tout ça n'est pas très intriqué pour qu'on puisse décider si oui, on a d'abord fait passer l'art avant la vie, ou la vie après, au service de l'art, etc. Le soupçon de cynisme, c'est celui de est-ce que l'auteur met sa vie en jeu, donc son corps en jeu, pour obtenir une reconnaissance ? Alors dans le cas de Marcela Yacoub, comme dans celui de Sophie Calle, la reconnaissance est aussi financière, hein, est aussi commerciale. Alors je pense à l'exposition Double jeu, ou La règle du jeu, que Sophie Calle réalise avec Paul Auster. Au départ, Paul Auster s'est servi de Sophie Calle pour inventer un personnage, qui s'appelle Maria. Donc lui s'est inspiré de la vie de Sophie Calle. Elle lui a demandé ensuite de lui inventer un personnage, c'est-à-dire de lui inventer des choses à faire, de lui écrire une partition finalement, une partition pour la vie, pour le réel. Et Paul Auster est extrêmement méfiant vis-à-vis de ça, c'est-à-dire qu'il sait qu'il joue avec le feu, Il y a une responsabilité là-dedans qui est compromettante. Donc, il va s'en tenir à des instructions pour la vie à New York qui seront suivies par Sophie Cal, plus ou moins, et qui sont plus ou moins compromettantes, là encore. Donc, on n'aura pas un scénario, on aura simplement des instructions. Mais finalement, cette demande, c'est décider de jouer la vie de quelqu'un qu'on n'est pas, mais de la vivre. Est-ce que cette demande ne passe pas d'abord par un désir personnel Est-ce que finalement on peut décider de faire ça uniquement par cynisme ou par art Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se retourne dans cette demande-là Alors si on poursuit avec Sophie Cal, on a en 80, enfin si je remonte plutôt en arrière, en 1980, Sophie Cal va demander à sa mère d'embaucher un détective privé pour la suivre elle-même et la prendre en photo. Et elle exposera ensuite le travail du détective. Et la description de ses allées et venues. Et elle mettra en parallèle le récit de ses journées qu'elle a écrit quotidiennement. Personnellement, j'ai beaucoup de mal à ne pas imaginer Sophie Cal se retournant dans la rue pour essayer de démasquer son propre détective. Il y a quelque chose de l'autosurveillance. Il est évident que toutes les personnes qui vont entrer dans la vie de Sophie Cal savent à quoi s'en tenir. Il ne viendrait pas à l'idée aujourd'hui à qui que ce soit qui aurait partagé sa vie de dire « je ne savais pas qu'elle allait se servir de moi hein. ». Personne ne prendrait ça au sérieux. Donc tous les dormeurs qui ont dormi dans son lit, auxquels elle a demandé de raconter des anecdotes, tous les gens qu'elle a interrogés suite aux histoires vraies, par exemple pour Douleur exquise, c'est pareil, tous ont finalement accepté le principe de participer à cette œuvre, à cette finalement performance collective. Hein. Là, on n'est plus dans l'autobiographie collective, mais plus dans une performance, dans une expérience collective. Alors, elle échappe finalement à la question morale au nom du jeu, du ludisme. Le jeu est finalement une façon, là je vous lis un extrait d'article, pour les adultes comme pour les enfants, d'approcher la mort, la violence, l'inconnu. Qu'il soit jeu d'enfant unique pour conjurer l'ennui, jeu social, jeu amoureux ou jeu de piste, Sophie Cal explore toutes ces modalités avec un esprit d'adulte, mais une liberté presque totale. Les rituels encadrent le déroulement de l'action, mais c'est généralement l'artiste qui va décider de mettre fin à l'œuvre. L'art narratif raconte des histoires, mais le jeu va permettre d'insérer l'extraordinaire dans la banalité du quotidien. Le hasard reste souverain, et c'est lui qui décide souvent du commencement et du déroulement de l'œuvre. Je ne sais pas trop quoi faire avec cette dernière phrase, « le hasard reste souverain », comme si c'était finalement une légitimation du récit in fine. C'est-à-dire qu'on est dans quelque chose d'infiniment scénarisé, où la légitimité vient de ce ludisme revendiqué. On est au-delà de la morale, on est dans le jeu. Donc la question morale ne se pose pas. Alors, il me semble qu'il n'y a pas de contrefaçon dans cette posture, dans ce choix qui consisterait à vivre des choses en se disant qu'elles seront le support d'une œuvre, mais plutôt une tentative de résilience. Je veux dire, vivre quelque chose pour le raconter, c'est aussi se sauver du néant. L'écriture serait comme une protection de l'ego. Vivre ça, si ça n'a pas de sens, au moins en livre, ça en aura. Et je précise, quel que soit le degré de transposition. Donc si la vie ne suffit pas ou plus à se justifier elle-même, au moins on aura toujours le recours de l'écrire. Et ça ne veut pas dire qu'on ne vit pas, ou qu'on ressent moins, ou qu'on n'est pas sincère. Mais s'il n'y a plus rien à perdre, les écrivains dont je vais parler après, il me semble que pour eux c'est le cas, faisons au moins ça. c'est-à-dire sauvons-nous du rien en ayant au moins écrit un livre avec ça. Alors récemment, j'ai fait l'expérience d'être le personnage d'un livre, du livre d'un autre, ce qui m'est arrivé une seule fois jusque-là, parce que quand j'ai écrit Photobiographie avec Jérôme en 2007, on avait des photos et des textes. Donc les photos étaient comme des embrayeurs, attestés finalement que c'était bien nous les personnages, même si l'histoire était fausse, les personnages étaient vrais. Et là, je me suis retrouvée être le personnage dans un livre de Laurent Héroux, qui est un ami écrivain, qui est venu à Montréal en juillet 2012 et qui a notamment logé chez moi. Il m'a fait le cadeau de me demander une préface pour son livre, ce qui me permet aussi d'avoir le dernier mot, ce qui est extrêmement confortable. Mais si je ne suis qu'une figurante dans ce livre, hein, c'est pas du tout ça. Je ne suis absolument pas le sujet. Mais donc, je vais vous lire un bout de la préface que je lui ai écrite, où j'essaye de raconter sa démarche aussi d'auteur que je connais bien. Je me souviens d'un jour de juillet 2012 à la campagne, près de Nice, dans une maison transformée en résidence d'artistes. On était une vingtaine, assis par terre, sur des matelas rouges, dans une pièce complètement rouge, une pièce œuvre qu'on aurait dit souterraine. Laurent avait son ordinateur sur les genoux, ou peut-être était-il posé en face de lui, et lui à genoux, dans une posture à la fois concentrée et offerte. Habib était assis contre un mur, près de Laurent. Je me souviens de l'avoir regardé pendant la lecture, puis de m'être défendue de le regarder, puis de l'avoir regardé encore finalement, en me disant que sa présence m'en accordait le droit. Il avait pris ce risque, en tant que personnage, de venir entendre son histoire avec nous, nous offrant ainsi la possibilité de la vérification. Et semant aussi peut-être, un peu paradoxalement, le doute. Laurent écrit sa vie, notamment depuis toujours, en tout cas depuis presque 15 ans qu'on se connaît. Il m'est déjà arrivé d'être un personnage secondaire de ses textes, à force de passer dans le champ, on reste sur les photos. Le texte lu ce jour-là n'a pas de titre, il a été question de l'intituler « Après ça a été mieux », mais il est resté anonyme. Ce texte est demeuré pour moi un événement, tel que je l'ai entendu et vu, un ready-made. Et surtout, une performance. Le texte disait, quitte à trahir, je résume, comment Laurent tombe amoureux de Luc alors qu'il aime Habib. Cette rencontre fut brève, sans avenir. Elle n'a peut-être plus grand sens au jour où j'écris ces mots. La remettre en perspective à la lecture du journal montréalais écrit un an après a quelque chose de cruel. Ce qui m'a fascinée ce jour-là était la performance. Un texte autobiographique, les noms, le pacte, et j'ajoute la temporalité, puisque l'événement raconté est celui qui occupe encore, au moment de la lecture, la vie, les cœurs, les pensées des protagonistes. Dans cette pièce rouge, donc, ce jour-là, les personnages, voix et corps, soufflent. La proximité, c'est comme une magie. Je peux voir la sueur perler sur le front de Laurent, l'air qui fait frémir la narine de Habib. Je me dis quel courage, je me dis qu'ils nous donnent leur vie, leur vérité, sans phare, ici, maintenant. Habib a déjà lu le texte, a accepté d'être là, de s'offrir à nos regards inquiets ou inquisiteurs. Je regarde Habib regarder Laurent. À mi-chemin de la lecture, on peut tenter de deviner la fin en scrutant leur visage. Au-delà de l'autobiographie, c'est le spectacle de la vie même qui se donne ici en partage, comme le visage de Marina Abramović lorsqu'au MoMA, Yolai vient s'asseoir en face d'elle après des années d'éloignement. Rien ne remplace la force de cette exigence-là, qui n'est pas un jeu, qui est une écriture performée, ancrée dans la vie, c'est-à-dire disant la vie et vivant la vie au moment de la dire. Pas seulement la recherche de l'exactitude, mais la responsabilité, le poids de chaque mot sur la vie à venir, sur la vie telle qu'elle se déroule sous nos yeux. Le langage est une praxis et les mots sont des gages. Lorsque Laurent est venu à Montréal en août 2012, je savais qu'il écrirait chaque jour. Je savais que je serais par la force des choses une figurante quotidienne de l'histoire de sa vie. Il me l'a raconté un peu. Et le vertige est grand de vérifier ici l'écart entre la sélection des événements dont il m'a fait le témoin, la confidente, la complice, et ce qui figure dans le journal tel qu'il restera imprimé. Rien ne manque et tout est vrai. Vivre à côté d'un écrivain diariste, fût-ce une semaine ou deux, permet de mesurer comment s'opère la saisie du réel, ou plutôt la saisie dans le réel, comme les foreuses prélèvent assez profondément dans le sol des échantillons, des strates. Je pourrais écrire dans les trous du texte ce qui se passe de l'autre côté de la porte, et le jour d'avant, et le jour d'après, et cette personne dont il n'a pas parlé, sans doute parce qu'il n'avait rien à en dire ou parce qu'elle n'interférait pas dans son histoire. Je rêve soudain d'un grand hôtel rempli d'autobiographes contraints de passer une semaine ensemble et d'écrire leur journal. On pourrait en avoir les points de vue de tous les personnages. Avec un peu de chance, ça pourrait ressembler au dit petit nègre autant qu'à la vie mode d'emploi. L'éloquence de la vraie vie n'a pas d'égal en littérature parce qu'elle convoque de forces extra-littéraires, référentielles. Aucune dénégation n'est autorisée, et je peux en témoigner ici, tout est vrai. Le seul mensonge est par omission, et c'est aussi celui de la caméra subjective. Ainsi, le narrateur-personnage n'entre dans le cadre que lorsqu'il se poste en face d'un miroir. Le 21 août, Laurent quittait Montréal, mon téléphone sonna dans l'après-midi. On m'annonçait la maladie d'un ami qui fut emporté 10 jours après. Les interstices du texte sont un puzzle. Je le lis en vraie lectrice, c'est-à-dire en anonyme, en y projetant les bribes de ma réalité qui s'y rattache, en soulignant les passages dont l'acuité me fait reconnaître une image, une sensation. Et vous, que faisiez-vous le 21 août 2012 ? Il y a dans l'écriture du journal la tentation d'avoir le dernier mot sur les événements et par-dessus tout leur donner un sens. Écrire sa vie a peut-être cette fonction, mettre de l'ordre, ranger sa chambre. Donc au-delà de cette expérience d'être un personnage, à regarder Laurent écrire, je me demande où est la rupture entre autobiographique et écriture expérimentale. Quand ça fait 20 ans qu'on écrit, donc on a l'habitude de vivre un carnet à la main. Et ce carnet est autant un moteur qu'une archive. Il n'y a pas de rupture entre le carnet que vous avez dans la poche avant de partir en voyage et le carnet que vous avez dans la poche dans l'avion du retour où vous allez finir par noter ce que vous y avez vécu parce que la vie avait repris ses droits. Il n'y a pas de frontière entre le moment où on prévoit qu'on notera et celui où on note, comme un archiviste ou un fétichiste de l'instant révolu, en essayant de le décrypter, de le comprendre, de ne pas le perdre ou de lui assigner du sens. Cette continuité signe la performativité de l'écriture. L'écriture, bon, est toujours performative de toute manière parce qu'elle est continue. Il s'agit d'une démarche constante qui implique de vivre sous sa propre surveillance, à l'affût de pouvoir en transcrire quelque chose. D'abord parce que la temporalité implique qu'une partie du temps de la vie est vouée à ça, à écrire, ce qui n'est pas banal finalement. Hein. Tout ce temps qu'on ne fait pas autre chose. C'est donc encore la conséquence la plus concrète de l'écriture sur la vie. Mais surtout cette écriture parce qu'elle est actée, et encore plus parce qu'elle est publiée quand elle l'est, acquiert une dimension performative, qu'on le veuille ou non. Je veux dire que toute écriture sera performative à un degré mineur. Ce que vous écrivez demeure dit, annoncé. On ne peut plus faire comme si ça n'existait pas. Et tout ce que je pourrais écrire sera retenu contre moi. Encore aujourd'hui, il m'arrive souvent de dîner, c'est-à-dire souper chez des amis, et qu'à un moment donné, quelqu'un qui vient de me demander ce que je fais dans la vie se retrouve à la bibliothèque à lire les premières pages de Viande, ce qui est quelque chose d'extrêmement gênant pour moi. Donc, cette modalité de la rencontre, Viande, j'ai écrit quand j'avais 19 ans, hein, donc voilà. Cette modalité de la rencontre, elle est induite par l'écriture. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire comme si c'était pas là. Lorsque vous parlez de votre vie, la différence, c'est que c'est votre corps qui est en jeu, que vous donnez le droit au lecteur de convoquer votre image et votre concept pour habiter son imagination. Le filtre de la transposition ne protège plus. Vous renoncez à la dénégation pour toujours. Et elle a la possibilité de dire c'est faux, de démentir, et ce, même si ce que vous avez raconté est faux. Si je raconte une histoire de fiction en disant que c'est moi qui l'ai vécue, tous les gens que je vais rencontrer une fois que cette histoire aura été publiée vont croire qu'elle est vraie. Que je le veuille ou non, que je le démente ou non. À partir du moment où vous l'aurez endossé, ce sera virtuellement la réalité pour les autres. Alors, je vais terminer avec deux exemples, les deux plus beaux exemples, les plus grands exemples d'écriture performative, qui l'est à la fois lorsqu'elle ne veut pas l'être et lorsqu'elle le souhaite, et parfois au-delà de ce qu'on peut imaginer. Bon, évidemment, un livre peut vous fâcher avec quelqu'un, mais on n'écrit pas seulement par amour de l'écriture. On écrit toujours pour quelque chose dans la vie. On écrit pour faire table rase, pour ranger sa chambre, pour régler ses comptes, pour avoir le dernier mot. On écrit pour séduire, pour être aimé, pour plaire, pour maudire, pour tuer, pour se réinventer, pour se construire, pour être quelqu'un d'autre. Alors, c'est le cas, par exemple, de Chloé Delhomme. Chloé Delhomme, qui, après avoir raconté sa scène primitive dans le cri du sablier, Chloé Delhomme, à 10 ans, elle a vu son père tuer sa mère et se suicider ensuite. Donc, elle raconte cette histoire-là dans le cri du sablier. Et après ça, elle va écrire un livre pour tuer sa grand-mère. On ne dit pas si ça a marché ou pas. Il y a un entretien avec Libération le 15 janvier 2009 dont j'ai noté un passage. À l'époque, ça n'avait pas encore marché en tout cas. Donc c'est Éric Leray qui lui demande « Le livre se veut performatif, destiné à tuer votre grand-mère qui vous a annoncé en 2004 que votre père n'était pas votre père. » Le fameux père qui s'est suicidé après avoir tué la mère. Cependant, à la fin, c'est un échec. Elle répond « Je pense que la littérature est capable de tuer. » Je ne suis pas sûre d'être capable, moi, de réaliser l'ouvrage qui peut le faire. Je préfère finir sur des condoléances. Et puisqu'il faut un meurtre, c'est Nathalie, mon vieux moi, qui est tuée. Je n'ai pas envoyé le livre à ma grand-mère. Et de toute façon, la haine s'étiole quand on prend conscience qu'on a en face de soi des personnes qui n'ont pas le niveau intellectuel et émotif pour appréhender cela. Je me retrouve face à plein de réels contre lesquels je me cogne. La seule solution est donc d'assassiner officiellement le vieux moi pour avoir la paix, pour me défendre. Il fallait un signal fort à ma famille. Et comme je n'arrive à communiquer que par les livres, voilà. Évidemment, c'est embêtant parce qu'il y a plein d'autres gens qui sont au courant en même temps. J'ai horreur du côté « sans ce livre, je serais morte » et autres fariboles, mais il m'a vraiment aidée à rester debout. Donc Chloé Delhomme, en fait, ce qu'elle raconte là, c'est que au lieu de tuer sa grand-mère, elle a tué son identité civile. Elle est née en s'appelant Nathalie Dallin. Et il y a un moment où elle a décidé que cette personne-là lui convenait pas, qu'elle n'avait pas la vie qu'elle voulait avoir, que donc elle allait se tuer elle-même à défaut d'arriver à tuer les autres. Et elle s'appelait Chloé Delhomme. Chloé, ça vient de l'écume des jours. Et Delhomme, ça vient d'un livre d'Artaud. Donc dans ma maison sous terre, qui est publiée en 2009, pousse l'aspect performatif jusqu'à ce paroxysme. Ce roman sera l'arme qui tuera ma grand-mère, cette fameuse grand-mère qui lui a pas dit que le père était pas le père, etc. Qui débouche sur un semi-échec. Et elle dit « Il y a mort de l'identité civile parce que je ne l'ai pas choisie. Un beau matin, je me suis dit « ça suffit, ma vie ne me convient pas, qui je suis ne me convient pas, je vais être autre. » Et j'ai pris cette décision. Et quand vous allez sur... si vous tapez Chloé Delhomme sur Internet, première chose qu'on trouve, c'est « Chloé Delhomme est un personnage de fiction pire que les autres. » Donc, à ce jour, le seul livre qui tuait quelqu'un, c'est le livre brisé de Serge Dubrovski, qui est le plus beau livre, à mon sens, que l'autofiction ait produit. Pas parce qu'il a tué quelqu'un, mais parce qu'il a une force extraordinaire, à la fois dans sa langue, mais aussi dans cette expérience dont il fait état, enfin, qui n'est pas une expérience pour le coup, mais qui est une réalité... qui arrive sans qu'on l'ait voulu, mais au cours de l'écriture et par l'écriture. Donc, Dubrovsky, en 1989, publie ce livre, Le Livre Brisé, qui au départ est une tentative de raconter les femmes qui ont compté dans sa vie, sauf que sa femme du moment, Ilse, avec qui il vit, est aussi sa lectrice, le lit, et donc le livre porte les deux narrations, celle de Dubrovsky qui raconte et les réactions de la lectrice intime qu'est Ilse. Jusqu'à ce que, après réception de ce chapitre intitulé « Beuverie », où il finit par raconter l'alcoolisme de sa femme, elle est à Paris, il est à New York, on la retrouve morte après une overdose d'alcool. Et donc c'est ce livre, le livre monstre, que Bernard Pivot va recevoir, va présenter à la télévision, en disant... Un écrivain a-t-il le droit, par amour de la littérature, par amour de sa littérature, de désespérer son conjoint au point de le pousser au suicide ? Donc l'attaque est ici parfaitement déraisonnable, puisqu'il n'y a pas d'intention de pousser l'autre au suicide. Mais elle est évidemment, et on y revient, d'ordre moral. Et c'est effectivement ce qu'on va reprocher essentiellement à Serge Dubrovsky, c'est l'aspect amoral ou immoral de son écriture, qui fait un usage des autres de manière presque consommatrice, hein, c'est-à-dire il les mange, il les broie pour en faire des personnages. Évidemment, le fait que... le personnage en question soit absolument consentant, voire même demandeur et moteur de l'écriture, passe totalement inaperçu une fois qu'elle n'est plus là pour le dire, puisqu'on est bien obligé de faire confiance à la voix du narrateur. Donc évidemment, l'accusation, c'est celle du cynisme, un cynisme qu'il y aurait à préférer la littérature, sa littérature, à la vie. Comme si c'était deux choses différentes. Donc, pour terminer, c'est l'opposition des deux qui me semble profondément absurde, tant l'écriture, et dans le cas de Dubrovsky en particulier, fait figure d'attelle ou de prothèse. Le mot est prononcé pendant l'émission de Pivot par un psychanalyste qui est là, et de béquille pour la vie. Donc, il me semble que c'est un mensonge qu'on se fait à soi-même aussi de se dire qu'on vit pour raconter les choses. Que c'est un prétexte parfois qu'on peut se donner de dire « je vais vivre cette chose-là pour essayer de la raconter ». Est-ce que finalement, c'est pas au contraire essayer de donner une raison artistique et noble à un désir qui le serait beaucoup moins ? Je ne connais pas un seul écrivain qui vive des choses dans le seul but de les écrire. On peut le prétendre après coup pour avoir l'air moins con. Et l'écriture nous aide peut-être à ne pas nous laisser couler dans la vie. Écrire à ce moment-là, et là je pense beaucoup à Dubrovsky, tient lieu de dignité, de colonne vertébrale. Et finalement, entre l'autobiographique et l'expérimental, je pense que c'est surtout le degré de désespoir qui change. Donc quand Marcela Yacoub dit qu'elle voulait... mourir avant de rencontrer la bête, et que c'est la bête qui l'a sauvée, moi je nuancerai en disant que c'est pas la bête qui sauve, c'est la bête plus le stylo. Voilà, je vais m'arrêter là.